gens parisiennes.
Ah,
oui, oui. À Bobigny. Parisienne. Depuis que je suis venu en France, c'est ou dans Paris ou autour de Paris, je n'ai jamais quitté cette région. Non, c'est la quatrième ou cinquième fois. Pas toujours pour voir un ami qui vit ici, qui voulait venir, Willy Landry, qui n'est pas venu, alors que lui voulait venir, donc je viens de temps en temps pour le voir. Lui aussi va à Paris pour me voir, puisque nous étions ensemble à Paris.
Mais les autres aussi, vous pouvez parler.
Vous avez toujours un intérêt très grand en Amérique du Sud?
Oui. Mais l'Amérique du Sud, l'intérêt va rester parce que les livres qu'ils ont écrits, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je continuerai à les lire. Je ne finirai pas de lire tout ce qu'ils ont écrit, donc oui, je serai toujours, disons, par le cœur, un Américain du Sud, grâce à leur littérature. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aurais voulu pouvoir faire ce qu'ils font.
Est-ce que vous pouvez choisir 5 écrivains français pour... Vous recommandez 5, 10,
2. Parmi les anciens, il y a beaucoup d'écrivains français qui sont très bons. C'est même difficile de les citer. Sinon, je dirais bon, les classiques, on les connaît, mais en même temps, on peut dire, on peut les relire. Quelqu'un comme Céline. Céline, je pense à Romain Gary. J'aime beaucoup Romain Gary, qui a aussi des livres qui sont signés Nil Ajar. J'aime beaucoup Romain Gary. Marguerite Yourcena, c'est vraiment de la très grande littérature. Et puis parmi les écrivains actuels, Nobel de 2009. Oui, 10 Bargassi-Yosa, 2009. Prix Nobel de littérature 2009, non 2008 même. Parce que 2009, c'est Hertha Müller, donc l'Ecclésio et.
C'est lui qui connaît tout.
L'Ecclésio et puis ben, Modiano. Marine Diaye aussi. Oui, bon, voilà. Puis, bon, il y a tous les grands classiques français qu'on peut lire à l'Ebazar, Flaubert. On peut lire tout ça.
Des bons de gens.
Et la France a donné tellement de grands auteurs. On va les lire tous.
Et quels auteurs de l'Amérique latine sont importants pour vous?
Et il y a bon, des auteurs comme João Camarões Rosa, avec un livre comme Diadori, que je considère vraiment comme ce que la littérature peut faire, très 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 grand. Il y a Luis Borges, c'est l'un des très 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 grands aussi. Roya Bastos, Octavio Paz, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, c'est la première fois qu'on donnait un prix Nobel à un écrivain latino-américain. Et puis Adolfo Bioy Casares. Je trouve vraiment un peu de comme ça. C'est... Oh, parmi les jeunes plus récents, hein, des gens comme Fernando Vallejo de la Colombie, qui a une écriture très très très, ou bien le Mexicain, oh j'oublie, c'est le nom, oui, le Mexicain, jeune Mexicain, Terre et Cendre en français, le dernier roman. Rufo, oui, le grand classique Pedro Páramo, bon, ça c'est le maître, mais Orte Volpi est très relativement jeune, il a 40-45 ans. Donc, il y en a tellement quand même dans cette Amérique latine que bon, tous les classiques, mais ceux qu'on connaît moins. Et puis, oui, quand on prend l'Amérique latine des Caraïbes, ben, on a Reynaldo Arenas, un Cubain, bon, peut-être pas aussi connu que les Garcia Marquez, mais aussi grand que les Garcia Marquez, au moins aussi grand.
Iván Gajos.
Oui, ben c'est, ils sont tellement ils sont tellement nombreux que bon, on cite et on oublie ben, Vargas Llosa, c'est ben, surtout le Vargas Llosa jeune, La ville et les chiens. Moi je préfère ce premier livre quand il avait 23 ans, 24 ans, La ville et les chiens. Ben, pour moi, c'est ben, peut-être l'un des plus grands qu'il ait publié. Oui, il y en a beaucoup. L'Amérique latine, c'est. Bon, ben, voilà, c'est. Ils ont tellement d'auteurs qu'on, quand on cite certains, on oublie d'autres. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, ça, bon, on passera du temps, on les citera et ça viendra. Il y en a beaucoup et tous de très très bien.
Bien, avez-vous d'autres questions?
L'intérêt, très bien, l'intérêt beaucoup de l'histoire d'histoire d'Amérique avec les conquistadors.
Oui.
L'histoire de la.
Oui, ça.
Le monde dans beaucoup de siècles.
Bon, ben, disons, l'histoire des conquistadors a fini par rejoindre aussi l'histoire de l'Afrique avec la traite et l'esclavage. Donc, parfois, pour comprendre ce qui s'est passé en Afrique, il est intéressant de comprendre comment l'Amérique latine aussi a fonctionné avec ces éléments qui sont partis, qui sont devenus des peuples américains, comment l'histoire. Donc, l'histoire de l'Amérique latine et celle de l'Afrique, et finalement celle de l'Espagne et du Brésil, sont un peu liés par ces aspects-là, l'esclavage, la traite. Donc, pour moi, c'est important de comprendre l'histoire de certains pays. Les civilisations qui étaient là avant les conquistadors, ce que c'est devenu en comparaison avec ce qui s'est passé aussi sur le continent africain avant la colonisation, après la colonisation. Donc, il y a des éléments qui se ressemblent que c'est vraiment intéressant de comprendre l'histoire de l'Amérique, de l'Amérique. Mais il y a des éditeurs actuellement au Togo qui qui souhaitent reprendre les livres Le Paradis des Chiots, Place des Fêtes et tout, pour publier là-bas. Pour le moment, ils sont republiés en Algérie. Pas dans mon pays, mais c'est en Algérie qu'un éditeur publie mes livres. Quand ils sortent en France, l'éditeur d'Algérie les publie là-bas.
Mais je veux dire, il n'y a pas la censure.
Non, non. Surtout pas les livres que j'écris parce qu'ils ne sont pas une critique de la politique du Togo. Et ça se passe ailleurs, donc bon, c'est...
Mais là, les autres livres...
Non, non, je n'ai pas de livre où je critique la politique du Togo, non. Ça ne me semble pas pour le moment important. Je me dis qu'il y a tellement de choses importantes que je dois apprendre à connaître. Après, un jour, peut-être, je critiquerai le Togo si ça me dit, mais... pour le moment, ça ne me semble pas intéressant. Donc, mes livres, non, ça ne pose pas de problème. Je ne parle pas des hommes politiques togolais.
Et comment est-ce que vous choisissez les sujets, les thèmes de votre romance?
Souvent, c'est des thèmes qui me sont venus de mes voyages. C'est vraiment, quand j'ai voyagé, j'ai découvert un pays, quelque chose m'intéresse, le sujet naît de là. Certains sujets, c'est pas mes recherches de sociologue.
Et vous choisissez toujours les thèmes sur la vie des personnes avec des difficultés.
Oui, mais... C'est souvent c'est ce qui me frappe. Par exemple, dans le paradis des chiots, quand j'ai découvert le quartier de El Paraíso à Bogota, ça m'a vraiment frappé la condition de vie des enfants de la rue, qu'ils soient sans parents ou qu'ils aient des parents, ça m'a vraiment frappé de voir les conditions dans lesquelles ils vivent. La violence qu'il y a entre eux, parce que les enfants dans la rue ne sont pas des petits, hein. Il y a une violence comme ça entre eux, et que la violence que les adultes ont sur eux, ça m'a frappé. J'ai parlé de ce problème-là dans l'avant-dernier Fille de Mexico. J'ai été aussi frappé par la situation de la minorité noire au Mexique, et puis ben, des noirs là, bon, ben, ce n'est plus une minorité, ils sont plusieurs millions en Colombie. Voir comment aux États-Unis, les lois pour les noirs ont évolué, et dans les pays latino-américains, en fait, les lois n'ont pas tellement évolué. Il y a une ségrégation beaucoup plus grande, et avec parfois même des groupes qui se forment avec l'idée d'exterminer les autres pour qu'il n'y ait qu'une Amérique latine blanche. Ça, c'est des délires, mais c'est des délires qui ont des conséquences, puisque certains, par exemple, un groupe mexicain qui s'était formé comme ça, tuait vraiment des gens parce qu'ils ne sont pas blancs, ils les tuaient au Mexique, même aux États-Unis. Donc des choses comme ça, ça me frappe quand même. Et du coup, oui, c'est vrai, mes livres traitent des sujets où les personnages ne sont pas dans des situations agréables. Bon, c'est des enfants qui sont dans la rue ou des gens qui sont dans des difficultés réelles. Mais, il y a toujours un petit moment d'humanité chez eux aussi qui fait que je me sens proche d'eux et que j'ai l'impression que tout le monde pourrait se sentir proche d'eux parce qu'ils sont aussi confrontés à la mort, à la maladie, mais ils ont aussi l'amitié, l'amour, ils aiment les enfants. Et bon, il y a beaucoup de choses qui nous lient parce que nous sommes tous dans la même condition humaine. J'ai choisi ce sujet-là, mais le plus important, c'est la condition humaine. Et à ce moment-là, nous avons presque toutes des choses essentielles qui se... Voilà, on a peur de mourir, on a la maladie, on a l'amour ou la haine du prochain, on est habité aussi par la violence, parce que nous sommes aussi habités par la violence, on fait un effort pour ne pas exprimer, mais on sait que n'importe qui est habité par ce que nous voyons et qui nous choque.
Et vous voyez que le monde est en rapport avec ça, deviendra les guerres dans le
futur? Je suis de nature plutôt pessimiste et je n'ai jamais pensé que le monde est pire. Donc je ne peux pas penser qu'il sera meilleur, parce que quand on lit tout ce qui s'est passé, il n'y a rien aujourd'hui qui puisse nous permettre de dire que c'est pire qu'avant, ça a toujours été comme ça. On peut aller au-delà même des grèves, de l'antiquité grecque, de la violence dans la société, de la domination des uns par les autres, l'esclavage, les morts, ça a toujours existé. Ce sont des formes qui changent. On est plus nombreux, donc quand ça arrive, c'est encore plus spectaculaire, surtout quand il y a des caméras qui filment et tout. Sinon, le monde n'est pas pire aujourd'hui qu'il l'a été. Et l'être humain, lui, il n'a pas changé. La preuve, c'est que quand on lit des textes très très vieux, les problèmes qu'ils soulevaient, on se rend compte que nous les avons, ça n'a pas changé. Socrate s'attaquait aux problèmes de la société, la corruption, tout ça. On n'a pas changé grand-chose par rapport à ce que Socrate dénonçait. Oh, quand on prend les guerres, tout au long de l'histoire, des morts, les êtres humains ont fait des morts tout le temps. Et je crois que ça ne... Il n'y a pas à rêver que demain, non, ça deviendrait un monde où tout le monde pourra dire j'aime tout le monde même. Je crois même que dans la nature de la société humaine, c'est la violence qui l'a fait avancer. Ce n'est pas toujours beau pour nous, mais c'est la violence et les injustices qui interrogent la société et la font avancer. Ça, on ne changera pas. C'est-à-dire, les formes vont évoluer, les gens pourraient devenir de victimes, devenir peut-être ce qu'on accuse, mais que quels que soient les groupes qui diront être les victimes de ceci ou de cela, ça ne changera pas. Ça ne sera pas pire que ce que nous vivons. Ça va être toujours comme ça, c'est-à-dire à chaque époque, on va même, peut-être, nous ne serons pas là. On verra des gens dire qu'à notre époque, à nous, c'était mieux.
Pardon, une question. Le rôle de la femme a changé. Est-ce que vous croyez que la femme peut aider à combattre la violence avec son présence plus visible dans la société?
Pour que je croie ça, il aurait fallu que je croie que la femme n'est pas violente. La femme est un être humain et c'est faux de croire que les femmes sont différentes sur ce plan des hommes. L'histoire nous a montré des femmes de pouvoir qui étaient aussi cruelles que les hommes. Les femmes sont des êtres cruels comme les êtres humains. C'est plus parce que dans presque toutes les sociétés, elles sont dominées. Et que ce qu'il y a comme expression de violence, ce sont les hommes qui sont en avant, parce que les femmes sont dominées. Sinon, si les femmes devenaient plus visibles, prennent le devant, oh, peut-être que les hommes deviendraient moins violents, parce que ce sont les femmes qui vont exercer la violence. Sinon, ça ne changera rien. La femme, c'est un être humain, et l'être humain, c'est très complexe, et il n'y a pas à rêver que grâce aux femmes, le monde deviendra plus doux. Ce n'est pas vrai, les femmes ne sont pas plus douces que les hommes. Elles ont la violence en elles, elles exercent la violence quand ça arrive. On peut dire que, bon, pour le moment, dans presque toutes les sociétés, quand il y a la guerre, c'est les hommes qui la déclenchent. C'est simplement parce que ce ne sont pas les femmes qui dirigent les pays. Et quand c'est elles qui dirigent derrière l'homme, on peut voir que c'est pire. On a vu par exemple en Tunisie. C'est que Ben Ali, ben d'accord, mais derrière, il y a quand même une femme qui... Ah ben non, on ne va pas partir, s'il faut tuer, il faut tuer. Ben, les femmes ne feront pas changer le monde, les femmes sont des êtres humains.
Et je crois que vous connaissez bien la tradition africaine. La tradition africaine.
Oui, oui, oui. Hein? Ben, un peu, oui. Je peux dire que je connais un peu.
Croyez-vous que la tradition africaine freine la globalisation des continents africains?
Non. En réalité, ce n'est pas vraiment la tradition qui freine, parce que il n'y a pas de société qui pourrait vraiment avancer si la tradition ne joue pas un rôle. Parce que on peut prendre des sociétés comme la Chine ou le Japon, la tradition compte beaucoup. Le problème de l'Afrique, c'est que c'est un continent qui est arrivé un peu en retard dans l'histoire occidentale, puisque c'est ça le vrai problème. C'est que des sociétés, après la colonisation, sont obligées de fonctionner avec les mêmes mécanismes que l'Occident. Quoi qu'on dise, l'économie est occidentale, les systèmes politiques c'est occidental. Eh bien, est-ce qu'on peut penser que bon, les sociétés africaines vont rattraper une sorte de retard comme ça par rapport au modèle occidental? Là, je me dis que ça va être très difficile parce qu'elles sont nées dominées, elles évoluent dominées, et ce n'est pas tellement demain que ça changera. Ce qui va changer pour elles, c'est hier, c'était peut-être la France ou l'Angleterre qui les dominait. Demain, ça pourra être les Indiens et les Chinois. Après, ça peut être le Brésil. C'est-à-dire, ça va être des pays qui passent d'un maître à un autre. Et que ça va mettre du temps pour qu'ils puissent vraiment se développer réellement. Au contraire, on pourrait dire peut-être que s'ils arrivaient à faire comme les Japonais, prendre à l'Occident ce qui permettrait de développer sur un plan économique et social, mais en fondant ça sur leur tradition, ce sera peut-être meilleur que tout le monde penser qu'il faut abandonner tout ça pour devenir occidental. Parce que ça n'existe nulle part. Quand on prend les Espagnols, même si vous avez une identité très forte, qui est l'identité espagnole, je pense quand même que les cultures sont fondées et basées sur des traditions qui n'ont pas disparu. L'Andalousie, ce n'est pas pareil que, bon, ben voilà, toutes les sociétés ont des choses quand même qui font que, même s'ils sont dans la grande Espagne, ils sont un peu différents selon les régions.